Lord, the light of the world, you're shining in the midst of the darkness, shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you know, bring us, shine on me, shine. Shadows into your radiance. By the blood I enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness. Every changing from glory to glory, mirrored here, may our lives tell your story. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Glory, the flow. Flood the nations with grace and mercy. Set forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Land with the Father's glory, blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Glory, the flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light.
Remplir avec ce pays, avec la gloire de Dieu. Nous également, nous sommes appelés à remplir notre journée avec des actes d'amour, des moments de prière, de décision, de conversion, mais même avec un sourire vers celui qui nous rencontre pendant notre journée. Voilà les fleurs grâce auxquelles la Vierge rend plus belle notre Radio Maria. Quand chaque âme qui se convertit, chaque acte d'amour de nos auditeurs a une portée pour Radio Maria. Et donc la journée d'aujourd'hui également a une grande importance pour Radio Maria. Je demande maintenant à Père Livio d'ouvrir un autre chapitre. nous montrer, pour nous montrer, à travers la figure de pape Paul VI, quelle est la mission d'aujourd'hui, quel est le visage de Dieu que nous devons voir et que nous devons donc accompagner vers notre prochain. Quel est le message de ce prophète saint pape Paul VI? Nous pouvons le dire aujourd'hui. Eh bien, mes très chers amis, pape Paul VI est un véritable saint dans le sens que il ne devient pas saint parce qu'il était un pape, mais parce qu'il a un profil intellectuel et prophétique extraordinaire. Mais il ne fut pas trop compris à son temps et il a été contrasté. Nous pouvons dire que dans les 15 ans de son pontificat, les 10 dernières années de son pontificat, il était systématiquement persécuté, non pas hors de l'Église, mais au sein de l'Église. Et avec cette élévation aux autels et cette canonisation, on va rendre à cette grande figure ce qui est juste. Une figure qui rayonne sur notre temps. Il est aujourd'hui un prophète pour nous. Il a compris, il y a plus de 50 ans, quel est le problème de notre époque, à savoir le problème de la foi. Et voilà, il y a 50 ans, il y avait l'année de la foi, et il a vu la dissolution de la foi au sein de l'Église. Il a écrit le Credo du peuple de Dieu, cet extraordinaire document. Il a professé la foi de Pierre le jour de Saint-Pierre en 1968, en analysant tous les articles du Credo et en les ampliant, en les élargissant, en envoyant les retombées théologiques. Parce qu'il voyait qu'il y avait quelque chose qui arrivait, qui était grave. Et Saint Jean-Paul II et Pape François, pendant leur pontificat, avec le catéchisme de l'Église catholique, ils ont tâché, et ils tâchent de résoudre ce problème au sein de l'Église. Mais donc... nous allons un peu parcourir sa vie et au fil de sa biographie, on va mettre en feu les éléments importants de son magistère et de son témoignage spirituel qui est, je le répète, très actuel. Il est né dans une région qui est tout à fait particulière, la province de ville de Brescia, qui est à côté de la province de Bergamo, qui était la patrie de Saint Jean 23, à quelques jours de distance. Donc, nous allons à la patrie de Paul VI. Il s'agit d'une région de papes, Saint-Pie X, Jean-Paul II. C'est toute une région où le christianisme est très enraciné, un christianisme opérationnel qui œuvre au sein de la société en créant les racines de ce mouvement catholique qui a soit un niveau social est très présent en Italie. Donc, il est né en 1980. Il a été ordonné prêtre quand il avait 20 ans. Il n'a jamais fréquenté le séminaire parce qu'il avait une santé délicate. Sa mère était une femme spirituelle, contemplative, et son père était sénateur, un politicien important, qui était très actif dans la politique réformiste de l'Église. Et un mouvement qui a aidé notre société à grandir. Donc, Paul VI, qui était un intellectuel, a aussi été appelé le pape des ouvriers. Dès son enfance, il avait le désir de vivre dans les gens, dans le peuple. Mais la Providence a décidé autrement. Il a été envoyé à Rome, dans la secrétariat d'État, où il est resté pendant 22 ans. Donc, sa destinée était différente. Mais pendant cette période, il s'est consacré à l'organisation universitaire catholique, parce qu'il croyait que la formation des intellectuels catholiques était très importante dans le monde d'aujourd'hui, là où on était en train d'élaborer une pensée qui n'était pas chrétienne. Donc, il a pu servir longuement Pie XI, le pape Pie XI. Et donc, le jeune Montini a soutenu ce pape dans la résistance contre le fascisme, qui était une forme de dictature. Et dans l'encyclique de Pie XI, qui condamnait le fascisme, a été inspiré par Montini. Après la mort du pape, il est devenu un peu le tout-faire, l'homme à tout-faire de Pie XII, qui a été encore un grand pape. Encore, il y a un veto là, sur lui. Un veto, si vous voulez, de la part d'Israël. Hein, parce que ce n'est pas encore tout à fait clair quel a été le rôle pour sauver les Juifs à Rome. Et pendant la déportation des Juifs à Rome, il organisa une grande œuvre de salut et pour sauver les Juifs à Rome, dans les couvents, dans les monastères. Mais Israël l'a un peu condamné pour ne pas avoir condamné ouvertement le nazisme. Et c'est pour cela que le processus de béatification du Pie XII est arrêté. Mais il s'agit d'un grand pape, tout à découvrir. Montini a donc travaillé au secrétariat de l'État longtemps. Donc, il avait dans ses mains un peu tout. Et malgré toute la capacité qu'il avait d'administrer l'Église, il ne devena jamais évêque. Et ça nous parle clairement. Il connaissait très bien la curie romane. Il fit une première réforme du Saint-Siège, de l'Église, de façon très illuminée, qui rendu le Saint-Siège plus moderne, en simplifiant un peu la pompe, si vous voulez, parce que le pouvoir temporel était déjà passé. Et nous ne savons pas trop pourquoi, maintenant, on dit que son pouvoir était trop fort. Il a été envoyé à Milan en tant qu'archevêque de Milan en 1955. Il est resté 8 ans à Milan jusqu'en 1963. Et là, on a vraiment vu la grandeur de ce pape. La première chose qu'il a fait, c'est toujours important de le tenir à l'esprit quand on va travailler sur le terrain. Il a organisé une mission à Milan. À ce temps-là, j'étais très jeune. Moi, en 1966, j'étais dans une paroisse de Milan. Et donc, je reprends, il a organisé une mission à Milan extraordinaire sur le thème « Dieu Père ». 500 prêtres, 24 évêques et plusieurs opérateurs pastoraux laïcs, divisés en catégories sociaux, en quartiers, pour que chacun puisse accueillir l'évangile du Christ. on voyait déjà quelle était l'impostation de son intellectualité. Nous, en tant qu'Église, nous devons annoncer le Christ à toute catégorie sociale. Voilà notre tâche, en donnant ce qui est plus précieux à l'Église, à savoir Jésus-Christ, unique sauveur du monde. Et par son extraordinaire capacité organisationnelle, il fit arriver dans le foyer de chaque Milanais une invitation en lui disant, en lui indiquant où aller. À ce temps-là, Milan était une ville d'immigration. Plusieurs personnes arrivaient du sud de l'Italie vers le nord en quête de travail. Il y avait 400 000 méridionaux de gens du sud de l'Italie qui sont arrivés à Milan. Qu'est-ce que Paul VI a fait? Il pensait que ces gens-là devaient avoir une église. Et il a lancé le slogan un foyer de Jésus pour tous. Et donc, en peu d'années, il a organisé, il a fait bâtir 35 nouvelles églises. Et quand il est devenu pape, il y en avait encore 89 paroisses en construction, y compris ma paroisse. Il était très attentif à la charité intellectuelle, donc à la formation intellectuelle des prêtres. Il a laissé une trace très importante dans le diocèse de Milan. Il s'agit du plus grand diocèse en Italie. Il était très lié à pape Jean XXIII. Quand, en janvier 1959, pape Jean XXIII a lancé l'idée du concile, moi, j'étais à Rome en 1957 jusqu'à 1966. Eh bien, j'ai vu ces deux pontificats de près et j'ai pu très bien suivre le concile. J'étudiais à la Grégorienne. Alors, j'ai vraiment vu ce qu'on ne voit pas, mais qui existait, la crise de l'Église, la crise de la foi qui s'est manifestée plus tard. Mais les mêmes forces qui ont été défaites par le Concile, qui a choisi une orthodoxie catholique de pastorale, de fidélité à la pastorale, toutes les forces qui n'étaient pas d'accord se sont déchaînées pendant le pontificat de Paul VI. Donc, il a été l'unique cardinal élu par pape Jean XXIII. Il a été à ses côtés jusqu'au concile. Pape Jean XXIII voulait faire un concile qui aurait duré 2-3 mois, pas plus. Il avait déjà préparé tous les documents. Pour lui, le concile devait être un moment d'affirmation de l'Église. Paul VI voyait le concile de façon différente, un moment liturgique, biblique, de croissance intellectuelle. Donc il a retenu que le concile aurait dû élargir, si vous voulez, ses horizons, faisant mesure de prendre tout ce qu'il y avait de bon qui avait été produit par le passé. Et ce concile, qui aurait dû durer 2-3 mois, a duré de 1959 jusqu'à 1965. Donc, il a duré 5 ans. Mais ça a été pape Montini, le véritable guide du concile, le véritable timonier. Il a pris le nom de Paul VI. Pourquoi il a choisi le nom de Paul? Ceci nous parle de sa mentalité, parce que Paul était l'apôtre des gens. Et donc son pontificat, il le voyait comme l'annonce du Christ à tous, partout dans le monde, comme saint Paul disait, accompagner Christ vers tous. Donc ce nom contient déjà son programme. Donc, il a été élu le 21 juin 1963, il a tout de suite mis, souligné les objectifs de son pontificat. Terminer le concile tout d'abord. Le concile a été un événement de grâce extraordinaire. Moi, je l'ai vécu dedans. J'y ai participé dans l'université grégorienne. Et nos professeurs recevaient les pères conciliaires qui étaient en charge de préparer les textes pour le concile. Nos professeurs de théologie. Donc nous, les étudiants, travaillaient tous là-dessus. Nous choisissions tous les documents sur l'Église en tant que corps du Christ, etc. Donc il y avait une grande ferveur, une grande créativité. Il y avait et aussi des courants disruptifs. Nous étions un peu séduits, nous les étudiants, par des personnages connus à l'époque. Et nous allons dans les cafés au lieu d'aller à l'école et nous écoutons toutes les théories imaginables. Mais le concile a été vraiment un grand événement de grâce. Les textes du concile sont d'une beauté incroyable. Je continue à les lire. Et le catéchisme de l'Église catholique les a intégrés de façon merveilleuse. Donc, il a dit que l'objectif de mon pontificat, je cite, est arrivé à la fin du concile et en accompagnant Jésus-Christ à tout le monde. Jésus-Christ, fils de Dieu, unique sauveur du monde. Il a tout de suite commencé à faire ceci en allant pour la première fois après des siècles en Terre Sainte, depuis des années. Pas de pape était allé en Terre Sainte. Il y avait encore la division entre Cisjordanie, Israël, etc. Et voir ce petit homme, Paul VI, était petit, n'était pas grand. Et donc, il s'est rendu en Terre Sainte. Et pourquoi a-t-il voulu aller en Terre Sainte? Parce qu'il voulait aller dans le lieu où Pierre, à Césarée du Philippe, avait dit à Jésus, « Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu as des mots de vie éternelle. » Donc, il est allé en Terre Sainte pour répéter les mots de l'Église catholique. Il a fait encore un geste extraordinaire. Il a eu la rencontre et l'embrassement avec le patriarche Athénagore de l'Église orthodoxe. Ça a été un événement unique. Ces deux chefs de l'Église, un de l'Église catholique, un de l'Église orthodoxe, et après cela, ils ont aboli l'excommunication réciproque. L'Église orthodoxe avait excommunié l'Église orthodoxe et vice-versa. C'est Paul VI qui a commencé un chemin de véritable œcuménisme. Il a donc... Voilà, et là, les excommunications respectives ont été annulées. La première encyclique de Paul VI s'appelle « Ecclesiam Suam ». Je me souviens parce qu'il y avait les étudiants de gauche, les contestateurs, et le pape disait « Ecclesiam Suam », de son église. Son église, il disait, à lui, du pape. Non, c'était pas à lui, c'était à tout le monde. C'est une très belle encyclique qui dit que l'Église est de Jésus-Christ, elle n'est pas à nous. L'idée que Paul VI et cela m'a inspiré, et l'amour pour l'Église, c'est nous sommes l'Église. Par notre baptême, nous entrons dans cette communion surnaturelle des enfants de Dieu. Donc, être dans l'Église est une grâce. Être membre de l'Église est une grâce. Aimer l'Église est notre devoir et une joie. Servir l'Église est notre tâche à nous tous. Défendre l'Église, la renouveler. Jamais attacher. Il ne faut jamais offenser et attaquer l'Église parce qu'elle Elle est notre mère. Qui de nous critiquerait sa propre maman? Voilà, c'est aussi une règle de Radio Maria. Nous ne parlons jamais mal de l'Église, même quand nous traversons des grands scandales au sein de l'Église. Et voilà, nous sommes les enfants de l'Église. Il faut toujours savoir que derrière les faiblesses humaines, il y a la présence de Jésus-Christ, qui est le véritable maître de l'Église, Ecclesiam Suam. Paul VI, il était aussi un grand pape marial. Quand il a fait un voyage apostolique dans un sanctuaire en Sardaigne, qui est une île italienne, il a été à la Madone, à la Vierge de Bonaria. Il a dit, on ne peut pas être chrétien, une personne qui n'est pas mariale. C'est une phrase très importante. Et, en novembre 1964, il a proclamé Marie, mère de l'Église. Et vous savez que Pape François, il a aussi établi la fête de Marie, mère de l'Église. Le concile a terminé le 8 décembre en 1965. Et la conclusion du concile a été un miracle. Il y avait des forces que j'ai difficulté à définir et à identifier, des forces traditionalistes qui disaient que le concile avait subverti le dogme chrétien. Et vous savez qu'il y a eu, après cela, la division des Lefèvriens. Il y avait des forces massives, des progressistes qui étaient en fait des modernistes, des gens qui pensent que la foi est dépassée, qui essayaient de toute façon de conditionner le pape. Mais il est arrivé à conclure et clôturer le concile le jour de l'Immaculée Conception, 8 décembre 65, et en prononçant un discours historique qui, selon moi, est une prophétie sur notre temps. Donc, en concluant le concile, il dit aujourd'hui, il y a dans le monde deux religions qui se confrontent. La religion de l'homme de Dieu qui devient homme, le christianisme, et la religion de l'homme qui se fait Dieu au nom de l'individualisme, de modernité. Modernité, dans certains livres, veut dire vision athée et matérialiste de la vie. Modernité veut dire que la religion est une projection de la conscience humaine. Et le christianisme est également un élément de la religiosité universelle qu'on ne peut pas éliminer. Il faut l'illuminer. Il faut faire comprendre aux gens, au peuple ignorant, que l'homme est Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Voilà. Qu'est-ce que c'est la modernité? Ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu.
Et donc, ces deux raisons se confrontent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que la religion de l'homme qui se fait Dieu, c'est la religion gagnante. Parce que si en Occident, les églises sont vides, eh bien, c'est la religion de l'homme qui se fait Dieu qui est en train de la remporter, tel que l'a dit... On a cité récemment le cardinal de Utrecht a cité le numéro 675 de l'Église catholique pour dire qu'est-ce que c'était la situation de l'Église aujourd'hui. Et il a dû fermer beaucoup d'églises, seulement 10 sont restées ouvertes. Il a dit ce qui se passe à Utrecht, ça arrive un peu partout en Europe occidentale. Et il a dit les gens vont bien. Ils sont bien économiquement et ils ne s'intéressent à rien. Avec le ventre plein, on ne pense à rien. C'est le matérialisme, il disait. Et en citant le numéro 675 du catéchisme de l'Église catholique, il a dit, le catéchisme dit que un moment arrive où les croyants abandonneront la vérité, c'est-à-dire Jésus, parce qu'ils se font l'illusion de pouvoir suivre une imposture religieuse, une fausse religion qui dit que l'homme est Dieu et que l'homme peut résoudre ses problèmes tout seul. Voilà l'imposture religieuse de notre temps. Et ça, certainement, ça a été une anticipation que Paul VI a fait sur ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, une apostasie silencieuse est en cours, comme Jean-Paul II le disait, une apostasie silencieuse qui est en acte, qui est en train de se réaliser aussi au sein de l'Église, parce que le modernisme est né hors de l'Église, mais il s'est multiplié à l'intérieur de l'Église déjà au début du siècle dernier, quand en 1907, Pie X a publié l'encyclique Capacendi. C'était d'une modernité incroyable. Il disait le modernisme, c'est pas une hérésie, c'est la somme de toutes les hérésies, parce que ça nie la possibilité de la révélation divine. Dieu n'existe pas et donc il n'y a pas de révélation divine et toutes les religions sont égales, sont la même chose. C'est l'expression de l'esprit humain qui a la conscience d'être le patron du monde. Avec le Concile, Paul VI réalisa son programme d'annoncer le Christ à tous les gens. Et il commença une chose nouvelle. Il a fait beaucoup de choses nouvelles. Les grands voyages intercontinentaux. Nous sommes habitués maintenant à voir les papes voyager. Mais le premier qui a commencé à voyager, c'était Paul VI. Il bougeait lors des grands congrès eucharistiques. Donc, il fit le voyage en Extrême-Orient, à Manila. Et puis, je vais me pencher sur ce voyage. Et puis, il a fait un voyage en Inde. En Inde, il n'avait pas de catholiques, mais il y avait tellement de gens qui ont suivi le pape en Inde. C'était une chose, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi il y avait autant de monde pour le pape en Inde, du monde de religion non catholique qui allait chez le pape en Inde. Et puis à Fatima, en Turquie, un pays musulman, c'était le premier qui allait là-bas, à Genève, en Colombie, en Ouganda. Et il a été le pape des grands voyages. Et maintenant, je crois que nous devons faire un moment. Voilà. Donc, pensez le pape à Manila. Manila, vous savez, c'est dans les Philippines, non? À l'époque, un peuple de démunis, vraiment, un peuple très pauvre et nombreux, parmi lesquels n'étaient même pas catholiques. Alors, qu'a-t-il dit Paul VI à cette occasion? Comme ça, vous pouvez comprendre ce que nous devons dire à Radio Maria, qui est une radio qui parle à tout le monde. Et qu'est-ce que nous devons annoncer à Radio Maria, qui est une radio qui arrive au cœur de tout le monde? Eh bien, a-t-il dit le pape, je vais vous lire ce passage parce que c'est pas très long. Il me faut 5 minutes, mais ce passage suffirait pour comprendre qui était Paul VI. Il dit « Moi, Paul, successeur de Saint-Pierre, chargé de la mission pastorale pour toute l'Église, je ne serais jamais venu de Rome jusqu'à ce pays-ci extrêmement éloigné si je n'étais pas convaincu très fermement de deux choses fondamentales. La première, de Jésus. La deuxième, de salut de notre âme. Pour Christ, oui, je ressens la nécessité de l'annoncer. Je ne peux pas le taire. Égare à moi si je ne proclamais pas l'Évangile. J'ai été envoyé par lui, par Jésus lui-même, pour cela. Et ça, c'est vrai aussi pour nos conducteurs de Radio Maria, pour nos prêtres. Et je suis apôtre, je suis témoin, et d'autant plus l'objectif est éloigné, d'autant plus mon amour me pousse à atteindre mon but. Je suis obligée de dire son nom. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est révélateur du Dieu visible. Il est le premier fils de toute nature, il est le fondement de toute chose, il est le maître de l'humanité, il est le rédempteur, il est né, il est mort, il est ressurgi pour nous et il est le centre de l'histoire du monde et il est celui qui nous connaît, qui nous aime. Il est le compagnon et l'ami de notre vie, il est l'homme de la douleur et de l'espoir, il est celui qui doit venir et qui doit un jour être notre juge. Et nous espérons dans la plénitude de la vie éternelle pour notre existence. notre bonheur et nous avons l'espoir pour notre bonheur. Et moi, je ne terminerai jamais, je n'en finirai jamais de parler de lui. Il est la lumière, il est la vérité, voire il est la voie, la vérité et la vie. Il est le pain, la source d'eau vivante pour notre faim et pour notre soif. Il est le pasteur, notre guide, notre exemple, notre confort et notre frère. Et comme nous et plus que vous, il a été petit, pauvre, humilié, travailleur, disgracié et patient. Pour nous, il a parlé, il a fait des miracles, il a fondé un royaume nouveau où les pauvres sont les béats et la paix est le principe de cohabitation et les purs de cœur et ceux qui pleurent ont été exaltés et consolés. Et ceux qui aspirent à la justice sont revendiqués et où les pécheurs peuvent être pardonnés et où tous sont frères. Jésus-Christ, vous en avez entendu parler. Même la plupart parmi vous, certes, vous déjà, vous lui appartenez, vous êtes des chrétiens. La plupart, et c'était catholique, mais il y avait aussi des non-catholiques. Mais le pape ne s'est pas tu par rapport aux non-catholiques. Il a parlé de Jésus aux non-catholiques aussi. Eh bien, à vous, chrétiens, je le répète, son nom et l'annonciation, Jésus, est le principe et la fin, alpha et oméga. Il est le roi du nouveau monde, il est le secret de l'histoire, il est dans la clé de nos destinées, il est le médiateur, le pont entre la terre et le ciel. Il est par excellence le fils de l'homme parce qu'il est le fils de Dieu, éternel, infini. Il est le fils de Marie, béni parmi toutes les femmes, sa mère dans la chair et notre mère dans la participation à l'esprit du corps mystique. Jésus, rappelez-vous, c'est ça, notre annonciation continuelle, la voix que nous faisons résonner de par la terre et de par les siècles. Et rappelez-vous et méditez, le pape est venu ici parmi vous et a crié Jésus-Christ. Voilà, moi, une chose comme ça, je ne l'ai jamais lue nulle part. C'est une chose qui, vraiment, ça impressionne. Voilà l'évangélisateur. Et je vous disais que après... Mais là, la Via Crucis commence pour Paul VI, parce que c'est la phase post-concile, c'est 10 années terribles, peut-être 12 années terribles, de 1986 jusqu'à 78. En cette période, Paul VI a lutté pour l'intégrité de la foi catholique, qui était dissoute par les courants modernistes. Et il a écrit, en défense de l'Eucharistie, la Mysterium Fidei, en défense de la vie humaine, Humanae Vitae. Et ensuite, en 1972, le 29 juin, dans la basilique de Saint-Pierre, il a prononcé le credo du peuple de Dieu. Et dans ce livret, il y a tout, mais vous pouvez trouver sur l'Internet. Vous allez tout trouver. Et vous savez, qu'est-ce que c'est la foi catholique? C'est une profession de foi qui est éclairante. Et à cette occasion-là, il dit, le pape, il dit, avant même de prononcer le credo, il dit, le pape a le sentiment qu'il y a des fissures et la fumée de Satan est entrée dans le temple de Dieu. Et donc, voilà, ça c'est une phrase qui a été épocale parce qu'on s'est demandé qu'est-ce que cette fumée de Satan qui est entrée dans le temple de Dieu. Et à cet égard, je peux vous dire tout simplement que lorsque Paul VI parle de la fumée de Satan dans le temple de Dieu, il parle d'une pensée qui n'est pas catholique. Et j'explique cela très bien. Et le philosophe français Jean Guiton, qui était son ami, et une fois chaque année, ils se voyaient lorsqu'ils étaient encore amis et lorsqu'ils étaient jeunes. Et Jean Guiton disait à Paul VI ses craintes pour l'Église. Et il disait que dans l'Église, c'était une pensée qui s'était frayée son chemin, une pensée qui n'était pas catholique. Il a dit une pensée qui n'est pas catholique, et a-t-il dit aussi. Et peut-être, à l'avenir, cette pensée non catholique pourrait devenir aussi majoritaire. Mais un petit troupeau qui résiste doit subsister, doit résister. Et voilà comment Paul VI a commenté la fumée de Satan dans le temple de Dieu. Et donc, le pape ensuite a proclamé en 1968 l'année de la foi. Et après 50 ans, nous avons reproposé cela. Peut-être vous rappelez-vous aussi, pape Benoît fit une encyclique sur la foi. Et ensuite, ça a été terminé par pape François. Et donc, voilà, la Via Crucis de l'Église a commencé. Et donc, il mourut le 6 août 1978, le jour de la Transfiguration. Et André Frossard, c'est un communiste qui s'était converti au catholicisme. Et il dit « La cruauté du monde l'a tué ». Et maintenant, je voudrais me pencher un peu sur la contestation au pape au cours des 10 dernières années de son pontificat, parce que ça, c'est ce qui s'est passé aussi à Jean-Paul II. Jean-Paul II a régné pendant 25 ans. Les 10 premières années de son pontificat furent terribles. Il fut attaqué par des forces externes, surtout au niveau international, et aussi par le progressisme ecclésiastique. Et puis sa grandeur parvint en quelque sorte à surfaire tous les obstacles pour Jean-Paul II. Mais aussi Benoît XVI a été tellement contrasté que finalement il a dû renoncer. Et donc voyons un peu comment le pape Paul VI décrit cette attaque à l'Église dans sa personne, qui lui, à partir de 78, le jour de sa mort. Nous sommes vers la fin de 68, l'année la plus tourmentée, exactement le 7 décembre, Paul VI se demandait aux séminaristes « Qu'est-ce que vous voyez dans le pape ?» Et il se répondait « Un nuage de contestation. L'Église passe à travers aujourd'hui une inquiétude. Elle s'exerce dans l'autocritique et aussi dans l'autodémolition. » Et donc, écoutez cette phrase « Autodémolition de l'Église », ça résonne continuellement dans les mots de Paul VI et de Benoît XVI. C'est-à-dire, l'Église se détruit à partir de son intérieur, elle détruit elle-même. Elle n'est plus fidèle à Jésus, elle considère Jésus comme dépassé. Et donc, c'est une autodestruction. C'est comme un bouleversement intérieur aigu et complexe auquel personne ne se serait attendu après le Concile. C'est-à-dire, après le Concile, on pensait à un épanouissement, à une expansion sereine des concepts mûris dans la Grande Assise conciliaire. Et au contraire, l'Église est frappée par ceux qui en font partie. Et moi, j'ai vécu ces années-là, je sais bien ce que ça veut dire, tout ça. Et donc, peut-être vous étiez ailleurs dans le monde, mais en Italie, ces choses ont eu une résonance particulière. Il y a une destruction de la foi à l'intérieur de l'Église. Le 2 avril 69, le pape sonna encore une cloche d'alarme. Et il dit « Mes très chers frères, aujourd'hui, l'Église est à une preuve de grande souffrance. Mais comment après le Concile ?» Oui, après le Concile, le Seigneur nous expérimente. Et l'Église a une resurgence de démolition de ses fils. Les prêtres, les maîtres, les laïcs consacrés au témoignage de Jésus dans le monde, c'est justement eux qui attaquent l'Église. Mais les critiques terribles et le schisme se répandirent de plus en plus. Et c'était le 29 juin 72, c'était l'anniversaire du pontificat que le pape célébrait avec 30 cardinaux à l'intérieur du corps diplomatique et la multitude de fidèles. Personne ne se serait attendu à ce que Paul VI dit dans l'homélie, je vous l'ai déjà lu et nous allons répéter. Le Saint-Père affirme qu'il a la sensation que, à partir de quelques fissures, entre la fumée de Satan dans le temple de Dieu. Donc il y a le doute, On mettait en discussion la divinité de Jésus même. Il y a le doute, l'incertitude, la problématique, l'inquiétude, l'insatisfaction, la confrontation. On ne se fie plus de l'Église, on se fie de premiers prophètes profanes qui nous parlent à partir de quelques journaux ou des émeutes sociales. Et on lui demande si la formule de la véritable vie que nous ressentons. Et nous ne pensons pas d'être nos pères et maîtres. Nous recherchons des maîtres humains lorsque nous avons Jésus-Christ. Et s'il croyait qu'après le concile, un jour serait venu de soleil pour l'histoire de l'Église, au contraire, c'était une journée de nuages, de tempêtes, de recherche d'incertitudes. Nous prêchons l'écuménisme et nous nous détachons de plus en plus des idoles des autres. Nous essayons de creuser des abysses et non pas de les combler. Et on en donne une explication terrible. Satan partage l'Église et il dit « Nous croyons en une chose de supernaturelle venu du monde pour suffoquer le fruit du concile œcuménique, pour empêcher que l'Église puisse avoir un hymne de joie, d'avoir reçu dans la plénitude la conscience de soi. Donc Satan est arrivé pour détruire les fruits du concile. » Et donc aussi on se demandait, de façon provocatoire, le pape, si l'Église était désormais superflue pour l'homme moderne et son devoir de civilisation, est-ce que c'est peut-être dépassé, ancien, encombrant pour la civilisation des temps nouveaux? Et ça, c'était l'interrogatif du pontife. Donc l'Église est inutile, Jésus est inutile. Le 24 mai, lors de sa dernière rencontre avec les évêques italiens, il mourut 2 mois après, il dit « Qui parmi vous ne ressent pas l'avancée de la marée croissante de la négation religieuse ?» Ce qui aujourd'hui, et aujourd'hui c'est une chose actuelle, mais non seulement du monde externe, la négation religieuse à l'intérieur de l'Église, donc la négation du supranaturel, de la divinité de Jésus, de l'unicité du christianisme. Or, le pluralisme équivoque et moral dit, avant l'indifférence, puis la critique, puis une version anticléricale, antireligieuse, maintenant le pluralisme équivoque, le christianisme c'est une religion comme toutes les autres, etc. Et donc, vous n'êtes plus capable de croire, prier, professer Jésus à travers un amour fort et capable de porter avec lui sa croix. Et la question qui s'agitait continuellement pour Paul VI, c'était toujours la même. À quoi ça sert aujourd'hui l'Église? Qu'est-ce qu'elle fait? En 1978, à l'année où le mal-être du pape a atteint son sommet, et il dit que l'Église avait perdu sa raison d'être et craint son agonie et la décomposition. Parce que, vous savez, il y eut le pontificat suivant, de Jean-Paul II qui rétablit une limite, une frontière, une digue, mais l'incrédulité, la fausse religion, la fausse prophétie, c'est un son montant, grimpant qui essaie de nous, qui déferle aujourd'hui aussi. Et aussi finalement le petit sucre. Il y a eu dans cette tribulation, Paul VI écrit sa dernière encyclique et ce fut l'encyclique de la joie. Et il dit justement, je surbonde de joie dans chacune de mes tribulations. Et ça, c'est l'apôtre Père qui parle à travers ses lèvres. Et donc, c'est sa prière préférée, c'est-à-dire cette malgré cela, je surbonde de joie dans chaque tribulation. Et son legs comme pontife, c'était le suivant, c'est-à-dire confirmer les frères dans la foi catholique. Et donc voilà, ça c'est la figure d'un très grand apôtre, une figure qui nous repropose la figure de l'apôtre Paul, un prophète de notre temps. Et je me relis à ce que j'ai déjà dit dans mon discours d'hier, c'est-à-dire aujourd'hui, le problème de fond, c'est la foi en Jésus, Fils de Dieu, Sauveur du monde. Et annoncer cela, c'est la tâche de Radio Maria.
Grazie, Padre Livio.
Merci, Père Livio. Nous avons un rajout à faire. Justement, pour terminer ce parcours que nous faisons à l'intérieur de notre parcours spirituel de la journée, nous avons imprimé le discours du message de Pape François que vous allez trouver au fond et qui va être distribué par nos volontaires. C'est un discours merveilleux en 2015 qu'il nous a laissé lors de la dernière audience et qui fondamentalement exalte les principes conducteurs du projet de Radio Maria. Donc vraiment, je vous invite dans ce parcours que nous sommes en train de faire. Et le pape nous a invités à vivre personnellement les valeurs que nous portons aux auditeurs. Et donc, en ce moment de réflexion que nous faisons dans la journée d'aujourd'hui, avec ce discours de pape François, nous pensons à nos principes de Radio Maria, ces principes inspirateurs qui nous ont menés, qui nous ont conduits à distribuer le message de Radio Maria dans tous les continents, qui, et tout ceci a été fondé et a démarré avec Radio Maria Italie en 1987, quand la famille mondiale a été fondée. Comme je vous l'ai dit, en 1998, la famille mondiale, ça a été l'organisation et la première association Radio Maria Italie, auquel Radio Maria Italie a confié la mission de porter ce projet de Radio Maria dans le monde. Donc ce discours de Pape François, vraiment, ça entre dans nos principes. Et nous réfléchissons, tel que l'a fait Père Livio, et comme nous l'avons fait dans ce parcours, tout au long de ce chemin. Et donc, notre vie personnelle et ces principes que nous affirmons.